Voilà, donc il ne s'agit pas à proprement parler d'une conférence, hein, mais puisque on m'a fait l'honneur, les organisateurs m'ont fait l'honneur de me traiter de témoin, puisque c'était ça, grand témoin, j'ai pris quelques centimètres. Et la question est, dans ce cas-là, c'est de quoi témoigne-t-on ? Alors je vais essayer de témoigner de ce que j'ai entendu, et c'est forcément sélectif, et puis sélectif parce que ça passe à travers ma qualité d'écoute, qui, même si elle a une certaine intensité, ne peut pas tout prendre au même degré. Ça passe aussi par les filtres que j'ai moi-même, comme tout un chacun. Donc ce n'est pas une synthèse complètement objective que je vous propose, mais que j'espère honnête, sur ce que j'ai entendu et ce que ça évoque pour moi, et des points que j'aimerais mettre en débat avec vous. Donc j'ai essayé de pointer quelques enjeux qui ont été soulevés pendant ce jour et demi là. Et il me semble que le premier enjeu a été bien formulé à un moment par Pierre Kane, qui est le problème du passage à un enseignement des faits religieux pour une éducation à la laïcité. Il y a eu là, suite aux attentats de 2015, un renversement, une bascule dont, à mon avis, on n'a pas encore mesuré tous les effets et qui nécessite de penser différemment la question. Alors ça a entraîné un débat fort intéressant. Alors je laisse la partie historique, bon, qui a son intérêt bien sûr, mais il ne s'agit pas de la reprendre. C'est un débat donc entre deux barbarismes d'ailleurs, instructionnisme et éducationnisme. Et on voit bien qu'il y a là un débat de fond sur les finalités mêmes de cet enseignement des faits religieux et comment il s'articule avec celui portant sur la laïcité. Donc il me semble que c'est un débat très sain et qui nécessite d'être mené en permanence, parce que la force des débats, c'est de nous obliger justement à repenser les choses. C'est là où il y a danger, c'est quand il n'y a pas de débat, c'est quand il n'y a pas d'opposition à rien, c'est là où il y a danger. Parce qu'on est dans l'unanimisme factice et de façade, et qui est le plus grand danger pour la pensée. Donc ce débat me semble porteur et il traverse en plus de ça chacun de nous. Ce n'est pas un débat entre les rouges qui seraient instructionnistes et les bleus qui seraient éducationnistes, mais chacun, selon les moments, on est pris dans ce débat sur quoi je vais mettre l'accent. Autre enjeu, me semble-t-il, c'est qu'on est dans un moment de l'histoire scolaire où on passe d'une laïcité qui a longtemps été un impensé, c'est-à-dire ça a été une conviction commune partagée, mais tellement partagée qu'elle était implicite. Et puis, du fait de tout un tas d'évolutions et d'événements, il a fallu passer à une phase d'explicitation. Donc après presque, disons, un petit siècle où la laïcité s'est invisibilisée et est devenue un bien commun, on pourrait dire, implicite, et il a fallu de nouveau se reposer la question, mais finalement, la laïcité, c'est quoi ? Et les élèves ne sont plus tous dans cette évidence. Pour les plus âgés d'entre vous, posez-vous la question de à quel moment avez-vous pris conscience que vous étiez dans une école ou et une société laïque. Et vous serez peut-être étonnés de voir que c'est assez tardivement, parce que rien n'était fait pour cette prise de conscience, parce que c'était de l'allant de soi. On était dans l'allant de soi. Donc ça, c'est un enjeu important, parce que ça, du coup, la laïcité devient un objet d'apprentissage. Et on est obligé de se poser la question de comment on fait pour que cet objet d'apprentissage soit effectif. Autre enjeu, me semble-t-il, c'est l'articulation entre les deux, entre enseignement des faits religieux et de la laïcité. Et l'enjeu, là, porte sur les principes organisateurs qui vont être choisis. Ça peut être la suggestion. On peut mettre l'un au service de l'autre ou en dessous par un système de hiérarchisation implicite ou explicite. La laïcité devant quoi fait le tout ou les religions devant quoi fait le tout. On voit bien que là aussi, il y a des enjeux très importants, notamment pour l'école. Et cette articulation, elle peut se faire sur le mode de la coexistence, hein. Comme disait Godard à propos, en se moquant de l'objectivité à la télévision, une minute pour les bourreaux, une minute pour les victimes, une minute pour la laïcité, une minute pour les religions. Hein. Donc ça, je ne suis pas sûre que ce soit non plus la meilleure chose. Ça peut être seulement d'aborder sous l'angle de la chronologie seulement. C'est ce qui est parfois fait aussi. Et avec le risque de réifier à la fois les religions et la laïcité, alors que ce sont des objets vivants, des objets qui sont source de autant de consensus que de dissensus, et de les traiter comme cela, c'est ce qui peut donner du sel aussi à leur enseignement. Ça peut être d'une approche critique. Et finalement, n'est-ce pas aussi une des finalités de l'école que de permettre le développement de cette pensée critique qui doit s'appliquer tant sur la laïcité que sur les faits religieux. Puisque, en effet, le danger qu'il y a, il me semble-t-il parfois, c'est que d'un côté, il y a une espèce de réification de la laïcité qui n'aurait ni histoire, ni conflictualité, ni tension interne, et de l'autre côté, de sur-conflictualiser les religions ou de les figer dans le passé, comme ça a été dit. Et donc là, c'est un enjeu qui a été bien pointé dans ce jour et demi. Autre enjeu, me semble-t-il, c'est la place des faits religieux. Et on a vu qu'il y avait à la fois des logiques d'invisibilisation, c'est long, hein, car les religions sont vues comme des dangers potentiels, comme des sources de tensions dans la classe, dans l'école, dans l'établissement, avec les familles. Mais il y a aussi l'inverse, et que, dans tous les cas, dans notre enquête, nous voyons le plus souvent, c'est de prendre appui sur l'intérêt des élèves, et qui a été signalé à de nombreuses reprises, l'intérêt des élèves, la curiosité, leur désir de comprendre, mais aussi des étudiants, et également sur les prescriptions, qui sont aussi, si on les compare à 20 ans en arrière, donnent des possibilités d'action aux professionnels pour traiter les faits religieux aussi bien que la laïcité. Un autre enjeu qui est plus intellectuel, et, je dirais, c'est de passer des politiques publiques à l'action publique. On a beaucoup entendu parler de politique publique pendant ce jour et demi, et j'aurais envie, moi, de vous tirer un peu du côté de l'action publique éducative. Il y a tout un courant de sociologie de l'action publique qui met l'accent sur le fait que, certes, il y a des politiques publiques, mais elles ne sont rien si elles restent au niveau des politiques publiques. Et une politique publique n'existe et évolue uniquement parce qu'elle est prise dans d'autres dynamiques que j'évoquerai plus tard. Donc voilà quelques enjeux que j'ai repérés. Ensuite, il me semble qu'il faut rappeler, pour savoir quand même dans quel contexte on parle concernant la France, une enquête qui comparait, une enquête internationale. Alors j'ai pris les résultats sur la France, mais la collègue allemande tout à l'heure nous a donné des résultats pour l'Allemagne qui sont assez convergents sur les tendances, où vous voyez qu'en France, la majeure partie de la population se déclare non-croyant, athée ou indécis. Donc c'est vrai qu'il y a une dimension culturelle aussi, et ce phénomène remonte à pas hier, hein, c'est un phénomène ancré dans l'histoire qui est à prendre en compte. Et quand on parle d'inculture religieuse, c'est aussi parce qu'il y a ce fait sociologique-là, à savoir que la majorité des habitants en France, eh bien, ils se déclarent non-croyants, athées convaincus ou indécis. Donc ça pose la question, bien sûr, un peu différemment par rapport à des pays où la majorité de la population se déclare croyant, ou se déclare ayant une pratique religieuse. Ça veut dire qu'en matière de compréhension du fait religieux, on ne peut pas l'aborder de la même façon. Un autre point qui a été finalement assez présent aussi dans ce jour et demi, ça a porté sur les finalités. Alors j'ai repris le terme qu'avait employé Philippe Fauré lors de la table ronde où il parlait de légende. Et puis j'ai trouvé que souvent il était question plutôt d'une approche pragmatiste, d'un certain pragmatisme. Et on voit que dans ces finalités, il y en a pas mal qui émergent. Il y a celles qui sont d'ordre culturel, on l'a dit, civique, politique, relevant de l'émancipation, on en a beaucoup moins entendu parler. On pourrait peut-être en discuter. Mais aussi des finalités qui sont beaucoup plus implicites, mais qui, à mon avis, sont très présentes, de normalisation et des finalités de pacification. Pourquoi est-ce que après les attentats de 2015, on est passé de l'arrimage de la laïcité aux valeurs de la République? C'est bien qu'il y avait une intention aussi de pacification. Et j'emploie le terme de normalisation, là, au sens de mettre à la norme commune. Bien dans ce sens-là. Alors, j'ai retenu aussi quelques points de débat qui portent sur quatre rubriques. La première rubrique, c'est sur les fondements de l'unité d'une nation ou d'un peuple. On voit bien qu'à travers les communications ou dans ce qui a été énoncé comme faisant débat, il dit qu'est-ce qui fait l'unité d'une nation? Certains pensent que ce sont les principes religieux, d'autres pensent que ce sont les principes juridiques et politiques. L'école républicaine française se situe du côté des principes juridiques et politiques, politiques et juridiques d'ailleurs, c'est plutôt dans cet ordre-là, qui fondent plutôt l'unité d'une nation. Alors, on voit bien que selon le point de vue qu'on adopte, l'enseignement des faits religieux, les apprentissages sur la laïcité ne vont pas être conçus de la même façon. Deuxième point, est-ce que faut-il être une communauté des croyants? Et la nation est collée, en quelque sorte, à cette communauté des croyants. C'est ce qui existe dans des théocraties, en tous les cas, ce qui est formellement indiqué. Ou est-ce que ce qui peut faire la communauté nationale, on va dire, ça va être d'aller vers une égalité sociale, comme ça a été posé à un moment. Donc là aussi, il peut y avoir des options différentes. Troisième point qui me semble plus partagé encore, c'est la question de l'enracinement et du détachement. On voit bien qu'il y a de plus en plus, depuis les années 80, la montée d'une demande de reconnaissance des enracinements singuliers. Cette montée de la demande de reconnaissance des singularités, elle se situe dans un contexte scolaire qui n'a pas eu l'habitude de reconnaître cette forme de singularité liée aux convictions religieuses. Quand on regarde l'histoire de l'école, il y a eu des formes de reconnaissance, notamment régionales, locales. L'ouvrage de Chénet sur les petites patries avait bien montré ça, hein, que l'école s'était construite aussi à partir de la reconnaissance de ces spécificités locales. Mais là, ce n'est pas la même chose. C'est des demandes de reconnaissance singulières sur les individus ou sur des sous-groupes qui partagent les mêmes convictions, alors qui ne sont pas forcément des convictions religieuses. Ça peut être des convictions liées à la nourriture, hein, des revendications de nourriture végétarienne, par exemple, de menus végétariens à l'école ou autre. Mais on voit bien que la tension entre enracinement et détachement est ce qui a été le projet de l'école, non seulement des Lumières, mais de l'école républicaine en France, et que ce détachement, c'est aussi ce qui est à l'origine du projet d'un apprentissage de savoir universel qui permette aux individus de ne pas être limités au savoir de leur propre communauté. Non pas pour leur interdire le savoir de leur propre communauté, mais pour en quelque sorte avoir un grandissement de leur savoir, de leur approche, pour dans un sens plus universel. Et dans le contexte actuel, ça se traduit par une logique que les auteurs qui se réfèrent à ça, je veux pas accumuler les citations, donc je ne les donnerai pas là, qualifient de communautarienne, non pas communautariste, hein, c'est autre chose, communautarienne, c'est-à-dire au sens de se référer à un enracinement dans une communauté, et ou plutôt libérale, c'est-à-dire avant tout l'individu. L'individu qui est mis en avant et la logique de l'unité nationale, pour le coup, va reposer sur la tolérance, sur la neutralité de l'État, sur la capacité, par des formes juridiques aussi, à régler les différends. Donc la logique communautarienne et la logique libérale sont en expansion dans nos univers depuis déjà maintenant 20 ans. Et la question, c'est comment s'articule-t-elle avec ce qu'on peut qualifier de logique civique qui bâtit l'unité d'une nation sur des principes politiques et juridiques de citoyenneté. La tendance générale, d'une façon assez forte, c'est ce qui est ressorti notamment dans la présentation des diverses pratiques qui ont été faites et qui étaient tout à fait passionnantes, la tendance générale va, y compris dans la prescription d'ailleurs, va vers la prise en compte de la pluralité des croyances, des convictions et des normes. Mais on voit bien que ce mouvement, qui est un mouvement qui ne concerne pas que la France d'ailleurs, qui concerne bien d'autres pays, du coup interroge tous les systèmes éducatifs. Et il ne faut pas croire que la France est le seul système éducatif à se poser des questions par rapport à cette volonté de prendre en compte cette pluralité des normes et des valeurs. Même au Québec, où ils ont l'impression de beaucoup mieux les prendre en compte, ils se posent aussi beaucoup de questions, voire parfois ils sont dans un mouvement de recul en se disant « on est allé trop loin dans ce sens ». Donc, deuxième rubrique des points en débat concerne l'importance des contextes nationaux et locaux. Alors, ce n'est pas tant un point de débat, mais c'est plutôt que ça nous permet de pointer des impensés. Et c'était intéressant d'entendre les collègues sur la Grèce, l'Allemagne ou d'autres pays, et qui nous permettent, par même un effet miroir déformant, de dire « ben voilà, c'est bizarre, nous on en est là et eux en sont là ». Et qu'est-ce qui de faciliter l'étonnement, et ça peut être aussi une bonne méthode pédagogique d'ailleurs, hein, en matière d'enseignement du fait religieux, qui a été mobilisée par plusieurs personnes qui sont intervenues, qui repose sur l'étonnement, hein, provoquer l'étonnement, et à partir de cet étonnement, ensuite proposer des contenus, des dispositifs, etc. Les contextes nationaux et locaux permettent de vérifier le poids de l'histoire, le poids des logiques nationales, et puis aussi notre propre exotisme et l'exotisme des autres, bien sûr, parce que on a toujours tendance à le voir comme ceci. Dernier point dans cette rubrique que j'ai repéré, c'est quand même la prétention commune de tous les systèmes scolaires à dire aux élèves quelle devrait être la vie bonne, tout en leur disant avec plus ou moins de souplesse, bien sûr, ça sera à vous de décider, mais quand même, au fond du fond, on est tous dans des institutions, c'est le propre d'ailleurs d'une institution, d'avoir un projet. Et le projet, il est toujours accroché à une idée de ce qu'est bien vivre. Alors, les deux autres rubriques qui font débat, tout à fait naturellement, c'est la question des postures et des outils. Alors, posture de l'enseignant et du formateur, on voit bien qu'entre neutralité et engagement, il y a souvent des pratiques professionnelles qui sont un peu sur le fil du rasoir, et que quand on aborde ces questions, il est souvent sain de commencer à se poser la question à soi-même, comment je me situe par rapport à ces sujets, pour ne pas faire du militantisme mal approprié ou inconscient sur ces questions. Donc, neutralité et engagement entre visée culturelle et utilitariste, eh bien, là aussi, je pense que les deux coexistent. Et même si la visée culturelle est prônée comme première, il y a aussi et beaucoup dans les pratiques professionnelles la visée utilitariste. Et le problème n'est pas tant de condamner l'une par rapport à l'autre, mais de voir comment la première peut être un levier pour la démarche utilitariste, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Dans les outils, je pense qu'il y a un point qui est beaucoup ressorti dans les tables rondes avec les enseignants et puis avec les formateurs, et qui est souvent sous-estimé. Ah pardon, excusez-moi, je suis allée trop vite sur les postures. Je remonte. Oui, transmission et accompagnement dans une démarche de questionnement. Oui, j'ai trouvé aussi qu'il y avait un peu ces deux postures qu'on trouvait chez les uns ou chez les autres, certains étant plus du côté de la transmission et d'autres plus du côté de l'accompagnement dans une démarche de questionnement. C'était surtout ce qui était important, avec un accent mis sur le contenu ou plutôt mis sur le dispositif qui va permettre justement le questionnement. Des postures aussi des élèves et des étudiants. C'est pas seulement la question des postures des enseignants et des formateurs, mais celle des élèves et des étudiants qui diffèrent selon les pays, les contextes scolaires. Et là, les études de terrain sont tout à fait décisives pour comprendre justement cela, et les individus, et que c'est cette articulation entre les postures des enseignants ou des formateurs et celle des élèves et des étudiants qui constitue la situation d'enseignement. Un point qui est revenu à plusieurs reprises et qui me semble important, c'est de réaffirmer, contre vents et marées, le droit à l'erreur des élèves. Dans le cadre de l'enquête que nous menons sur les religions à l'école, j'ai le souvenir d'un enseignant qui disait « Mais c'est bizarre, on ne reproche pas à un élève de dire une grosse bêtise en maths. Et on va reprocher à un élève de dire une grosse bêtise en philosophie ou en histoire quand ça a trait aux religions, ou au racisme, ou je ne sais quoi, parce que ce sont des questions vives. Hein. » Et ce droit à l'erreur de l'élève, ou de l'étudiant d'ailleurs, c'est quand même le point d'ancrage de tout apprentissage possible. Hein. Parce que sinon, je crains, et c'est un peu aussi un des résultats de notre enquête, c'est qu'une partie des élèves se conforme, la normalisation a joué, ils se conforment dans l'espace scolaire. Mais en dehors de l'espace scolaire, non, c'est fini. Ils passent à une autre norme. Les enfants ou les adolescents sont des experts pour passer d'un monde à l'autre. Et leur socialisation dans différents mondes fait qu'ils savent très bien qu'à l'école, on ne doit pas dire ou pas faire certaines choses qu'on dit et qu'on fait à l'extérieur. Mais donc on voit bien que la visée éducationnelle de cet enseignement, elle ne peut pas se limiter à être un bon élève dans l'école, si c'est une visée qui concerne l'éducation à la citoyenneté. Le quatrième point, c'est concernant les outils. Alors, on voit bien que souvent, on se dispute sur les outils, et c'est intéressant parce qu'on a du mal à avoir des débats conflictualisés sainement, j'ai envie de dire, sur les finalités. Alors, du coup, on s'empaille sur les outils. Hein. C'est un grand classique de la sociologie des organisations. Mais c'est en même temps normal, parce que les outils sont l'incarnation, la concrétion, le résumé de tout un tas de logiques sociales, de débats plus généraux qui ont eu lieu en amont de la création des outils. Donc les outils sont porteurs d'idéologie tout autant qu'un discours idéologique. Donc il est normal que les outils fassent objet de débats. Et on voit que ces débats sont à mettre en relation aussi avec la conception du travail. Si on est dans une conception du travail des enseignants où les enseignants sont des applicateurs, il faut leur fournir des outils clés en main pour qu'ils appliquent bien et qu'ils aient des bonnes pratiques. Mais en même temps, on sait bien que ça ne marche pas comme ça. Donc, qu'est-ce que ce serait que des outils qui ne seraient pas dans cette logique, qui permettraient le débat professionnel, au risque parfois de susciter des malentendus ? Parce que du coup, les outils sont pris, surtout quand ils viennent de l'institution, sont pris comme des outils normatifs, alors même que le projet pourrait être d'en faire un objet de débat. Donc là, je pense qu'il y a une réflexion qui est sans doute à approfondir. Les outils sont en lien aussi avec le contexte et les organisations du travail. À écouter les interventions, j'ai été frappée aussi par le nombre d'outils qui sont évoqués, mais qui sont très rarement, et c'est ce qu'on a observé nous aussi dans notre enquête, très rarement des outils institutionnels, qui sont très rarement des outils clés en main. Ce que font les enseignants, et parce que c'est leur travail, c'est leur professionnalité que de le faire, eh bien, ils prennent un outil à droite, un outil à gauche, qui vient rarement de l'institution, et puis ils en font quelque chose qui est adapté à ce qu'ils veulent faire. Donc la question, est-ce que c'est toujours à la recherche du bon outil ? C'est un peu la fuite en avant qu'on a tendance à avoir, hein. Créer enfin le bon outil qui permettra d'agir au mieux. Ou est-ce que c'est de permettre dans l'organisation du travail des espaces-temps qui permettent aux enseignants de débattre des outils, de les construire, de les déconstruire, de les tester, de les valider ? Il me semble que c'est ça peut-être le plus important. Donc outils par qui et pourquoi, et puis en faire des débats, des objets de débats professionnels, institutionnels et scientifiques. Encore un petit point sur la question politique publique versus action publique. L'importance dans cette approche, c'est de bien prendre en compte tous les phénomènes de traduction des acteurs. C'est-à-dire qu'une politique publique n'existe jamais en soi, aussi vertueuse soit-elle. Et il y a bien des politiques publiques qui sont restées non opérantes. Oups, qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis désolée, il y a quelque chose qui s'est passé. Ça s'est bloqué, voilà. Une politique publique qui est non opérante, à savoir que ça reste... Pas utilisé, pas appliqué, rien du tout, quoi. Alors, excusez-moi, parce que c'est bloqué sur mon écran, et je vois que c'est pas bloqué là. Donc, je vais devoir me retourner un petit peu. L'autre point aussi, c'est que dans ce travail de traduction, il y a tout un travail d'interprétation des situations. Alors, nous avons travaillé beaucoup sur l'interprétation des situations par les enseignants. À partir de quel moment estime-t-il que c'est une situation qui est liée au religieux ? Ou à partir de quel moment estime-t-il que c'est une situation qui est religieuse à la laïcité ? Et on a été très étonnés de voir que des situations équivalentes n'étaient pas du tout mises dans la même catégorie. Et du coup, n'étaient pas du tout traitées de la même façon. Donc s'intéresser à ce travail de catégorisation des acteurs, c'est mieux comprendre l'action publique. Parce que c'est à travers ce travail de catégorisation des acteurs qu'ils peuvent aussi agir et qu'on peut nous comprendre aussi comment ils agissent ou qui que ce soit. Donc c'est dans ce travail de catégorisation qu'ils font un processus de renormalisation. Les prescriptions proposent des normes. Il y a des normes liées au métier, liées à la culture ambiante, on va dire aussi. Mais dans des situations précises, ils sont amenés à renormaliser ce qu'ils font. Donc cela veut dire que prendre en compte pas seulement les objets, les prescriptions, mais prendre en compte la professionnalité des enseignants. Et plutôt que d'avoir une vision souvent que je trouve pessimiste sur les enseignants, ou en pensant qu'ils sont pas assez formés, pas assez courageux, pas assez ceci, pas assez cela, qui font pas bien leur travail, en gros, quoi. Moi, ce qui me frappe plutôt, c'est à quel point ils sont capables de trouver des solutions inventives, même si ça ne marche pas toujours, bien sûr. Mais cette professionnalité, elle laissait plutôt ce qui serait à soutenir, me semble-t-il, à renforcer, à nourrir, à donner ces espaces temps pour qu'elles puissent se développer, plutôt que de les assommer de prescriptions diverses et fréquentes ou d'une accumulation d'outils. J'ai le souvenir d'un enseignant qui me disait « Mais vous savez, vu le nombre de mails qu'on reçoit chaque jour dans notre boîte professionnelle et le travail qu'on a à faire, moi, tous les outils qui nous sont envoyés par mail, c'est poubelle. » Voilà, hein, c'était la solution. Alors, il y a aussi les stratégies conduites par les enseignants. J'ai beaucoup apprécié l'intervention sur les enseignants du primaire et leurs stratégies. Alors, nous, on travaille sur le secondaire, mais je l'ai mis quand même parce qu'on voit à quel point parfois ça se recoupe. Mais aussi qu'il peut y avoir des différences. Et ces stratégies, j'ai envie de dire, elles ne sont ni bonnes ni mauvaises. L'intérêt, c'est de les comprendre dans la dynamique de l'action et de à quoi elles servent, finalement. Parce que si on prend, par exemple, différer, souvent, ça peut être vu par des journalistes comme « Oh là là, les enseignants, quelle bande de trouillards, ils n'osent même pas affronter les élèves quand il y a un problème. » Mais non, mais différer, c'est le béaba du métier. C'est le béaba du métier qui n'est pas de répondre immédiatement à quelque chose qui se passe, mais c'est de prendre le temps de bâtir une réponse vraiment pédagogique pour que les élèves en apprennent quelque chose. Donc c'est pour ça que c'est identifier ces stratégies. Et je trouve que dans la formation des futurs enseignants, c'est important de leur dire qu'il y a des stratégies différentes et qu'elles ne sont ni bonnes ni mauvaises en soi. Dernier point, c'est la question de l'adhésion ou des résistances. Ça n'a pas été beaucoup évoqué, je trouve, dans ce jour et demi, mais il me semble qu'on peut les comprendre par ce petit schéma que j'ai fait et qui permettent de voir les tensions entre trois pôles, les attentes d'un traitement égalitaire, et cette attente, elle est massive. Elle est massive dans la société, elle est massive chez les élèves qui veulent surtout pas être étiquetés comme ci ou comme ça, ils veulent être traités comme les autres, hein, quelles que soient leurs singularités. Mais en même temps, il y a le deuxième pôle qui est « j'attends d'être reconnu pour ce que je suis moi-même ». Et éventuellement avec mes convictions propres et autres. Et puis le troisième pôle, c'est « mais m'embêtez pas, je veux faire aussi ce que je veux à condition que ça ne gêne pas les autres, etc. » Donc il me semble que l'enseignement des faits religieux et de la laïcité se situe entre ces trois pôles. Et se poser la question de comment faire, c'est comment faire avec ces trois logiques, en fait. Donc après se pose la question des résistances à l'enseignement actuel, et c'est une résistance que, il me semble, on peut interpréter comme une résistance à l'imposition de valeurs par l'État. Là aussi, le développement de la logique libérale dans nos sociétés fait qu'il y a plus de résistance. Alors, ça peut se traduire par la résistance à l'impôt, ça peut se traduire par la résistance à l'enseignement de la laïcité. Hein. Ça peut prendre différentes formes. Et là, on voit bien qu'il y a trois possibilités pour expliquer ces résistances que je vous laisse lire. L'important, me semble-t-il, c'est de pouvoir analyser selon les situations de quel point de vue va se situer ces résistances. Et si on ne répond par un acte pédagogique ou formatif qu'à une forme de résistance, on va être à côté. Et souvent, là aussi, c'est pas seulement les verts qui sont comme ci, les rouges qui sont comme ça et les jaunes qui sont autrement, mais c'est souvent à l'intérieur des individus que les trois pôles sont en tension. Donc travailler sur ces tensions entre ces trois pôles est une piste possible. Finalement, la logique de la reconnaissance, pour finir, va dans celle, nous a-t-il semblé en tous les cas, et je l'ai retrouvé ici, d'un enrôlement, d'une sorte de stratégie d'enrôlement dans une logique civique. On n'est pas chez les enseignants du tout dans un modèle à l'anglo-saxonne où l'accent est mis essentiellement sur la reconnaissance des singularités. Mais il y a de plus en plus de reconnaissance des singularités, mais pour enrôler les élèves dans une logique plus civique et plus universaliste. Donc là, c'est intéressant de voir comment la critique d'une école indifférente aux différences ne tient plus, à mon sens. Mais comment l'école et ses acteurs ont en quelque sorte retourné le truc en utilisant les reconnaissances individuelles pour, au service quand même de la logique civique héritée, on va dire, hein, classique. J'ai repointé aussi des éléments qui ont été dits dans la journée et demie sur que faire, hein, que faire. Et il me semble qu'il y a un point qui ressort pour finir, c'est se centrer sur des actions. Sur des actions, alors qui n'empêchent pas du tout les développements intellectuels, bien sûr, mais se centrer sur des actions qui peuvent être soit de l'ordre du débat argumenté ou réglé, de l'ordre des projets, de l'ordre des études de cas ou autres, parce que ça évite le discours qui n'est pas accroché à des expériences de vie, et ça évite surtout le questionnement. Si c'est trop descendant, on va dire. Et on voit bien, et là je l'ai expérimenté aussi à l'université avec des étudiants, quand on part par exemple d'études de cas, les étudiants sont eux-mêmes confrontés aux contradictions collectives et individuelles, et aux tensions auxquelles cela peut donner. Et donc trouver des pistes éthiques pour résoudre des cas qui sont posés, c'est une solution qui est intéressante. Un des problèmes quand même que posent ces dispositifs pédagogiques, et notamment celui du débat réglé, qui a été pointé par certains chercheurs, c'est est-ce qu'ils ne favorisent pas finalement les inégalités sociales à l'école ? Débattre, prendre la parole en public, argumenter, n'est pas également réparti dans la société. Et donc, il y a aussi un apprentissage au débat qu'il ne faut sans doute pas sous-estimer. Non, voilà, je vais m'arrêter là. Mais écoutez, je crois que c'est à peu près les temps. Et merci.